franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Il est parfois des chiffres qui donnent de l'espoir. L'espoir d'une planète meilleure, plus humaine, moins cruelle. Mais l'espoir ne tient pas longtemps. Ainsi l'estimation dont se fait ce matin l'Écho, le Parisien. Estimation donnée par Amnesty International. L'an dernier dans le monde, les exécutions ont été moins nombreuses que l'année précédente. 607 personnes exécutées, une baisse de 22%. En revanche, le nombre de personnes condamnées à mort est en très nette augmentation, une hausse de 28%. Du coup, pas de raison de se réjouir. À ce jour, 22 États continuent d'appliquer la peine capitale, au premier rang desquels figure, d'après l'ONG, la République islamique d'Iran. 289 exécutions recensées en 2014, suit l'Arabie saoudite, 90 exécutions, puis l'Irak, une soixantaine d'exécutions, puis les États-Unis, 35. Toutefois, ce triste palmarès compte de nombreux absents, comme la Corée du Nord ou bien encore la Chine, absents du palmarès tout bonnement parce qu'on ne dispose pas de statistiques officielles. Or, en Chine, d'après donc Amnesty, la Chine a vraisemblablement tué plus de condamnés que l'ensemble des pays du globe réunis. Plutôt que de titrer « Moins d'exécutions dans le monde », sans doute le Parisien aurait-il dû écrire « Moins d'exécutions dans les pays qui donnent leurs statistiques ». En Indonésie, on exécute aussi.
Patricia. Ouais, et c'est le 28 mai, donc que le Français Serge Atlaoui devrait enfin savoir le sort qui lui sera réservé.
Condamné pour trafic de drogue, il devait être exécuté à la fin du mois d'avril en compagnie de 8 autres personnes, mais in extremis, un sursis lui a été accordé fin avril. Il faisait la une d'une partie de la presse. Aujourd'hui, Serge Atlaoui attend et les journaux n'évoquent son calvaire qu'avec quelques lignes désormais, excepté le Quinzomadaire Society, paru cette semaine, qui propose un long entretien avec l'un des frères du condamné, André Atlaoui, maçon dans le civil, qui pendant des années a gardé le silence par crainte de froisser les autorités indonésiennes. Mais aujourd'hui, il parle et il raconte son frangin, son grand frangin. Il raconte son enfance, il raconte leur enfance dans une cité de l'Est. Il raconte les succès de son frère, il raconte ses galères, il raconte son extrême gentillesse. « Tout ce que je sais, dit-il, c'est que Serge est innocent. » Sa seule erreur, et il s'en est excusé publiquement, c'est d'être venu en Indonésie, d'avoir travaillé au noir, de n'avoir rien déclaré. Mais il n'a jamais reconnu être un baron de la drogue, et il ne le reconnaîtra jamais car il n'est pas un baron de la drogue. Une scène lui revient, une scène d'adolescence. Serge savait que son frère André fumait des joints. Serge était venu l'engueuler. Il avait filé une correction à son petit frère en lui lançant « Ne touche plus jamais à cette merde ». André défend Serge, mais il se désole du manque de soutien dans l'épreuve qu'il traverse lui et sa famille. Parfois dans la rue, certains lui lancent « On pense à vous, mais ça ne suffit pas », dit-il. Et puis il y en a qui changent de trottoir ou qui baissent la tête quand ils le croisent. Il y a un mois, André Atlaoui avait organisé un concert de soutien à Metz. Le concert a réuni quelques 250 personnes. J'aurais tellement aimé que l'on soit des milliers, confie-t-il, ajoutant qu'il a l'impression que les Français ne se sentent pas concernés. Serge Atlaoui a donc passé 10 années dans les geôles de l'État indonésien. Il sera dans 2 semaines s'il sera exécuté. Dans la presse, il y a donc des chiffres qui donnent de faux espoirs et d'autres qui témoignent de situations désespérées.
Oui, c'est le cas ce matin encore à la une du Figaro qui s'alarme des nouvelles arrivées de migrants sur le sol européen.
Alerte rouge à la frontière franco-italienne. Entre lundi et jeudi, près d'un millier de clandestins ont été interpellés dans la région de Nice. En conséquence, la police renforce les contrôles, explique le quotidien. On notera l'emploi du terme « clandestin ». On les appelle migrants lorsqu'ils se noient en Méditerranée, mais dès lors qu'ils s'en sortent, ils deviennent des clandestins. Lire à ce propos la passionnante enquête parue dans Le Monde diplomatique. Enquête menée en France et aux États-Unis sur la manière dont les médias parlent d'immigration. Comment ils en parlent aujourd'hui, comment ils en parlaient il y a 40 ans. On a tendance à ne parler des immigrés que sous l'angle du fait divers ou du misérabilisme, à ne les voir que comme des agresseurs ou des victimes. Écrivait dans Le Monde le toujours pertinent Robert Solé, il y a bientôt 30 ans. Force est de constater que la situation n'a pas changé. L'étranger émeut quand il se noie dans un naufrage. Il devient inquiétant quand il perturbe l'ordre public. Et le traitement de l'immigration se focalise selon les médias et selon les pages, soit sur les questions humanitaires, soit sur celles de sécurité. question de sécurité, donc, à la une du Figaro, qui rapporte qu'une cinquantaine de passeurs ont été arrêtés cette semaine. Question humanitaire, quelques pages plus loin, toujours dans le Figaro, qui raconte le grand dénuement des migrants syriens échoués sur l'idyllique île grecque de Kos. Et puis dans Libération, c'est l'extrême dénuement des nouveaux boat people en Asie du Sud-Est, refoulés par tous, des bateaux de réfugiés, pour beaucoup des Rohingyas de Birmanie. Ils dérivent aujourd'hui sans nourriture, sans assistance, ils sont des dizaines sur les bateaux, parfois des centaines, et ils seraient au total 8000. Certains en mer depuis plus de 2 mois. Le reportage est signé Arnaud Vollerin, qui parle des damnés de la mer. Première victime donc, les Rohingyas, minorité persécutée depuis toujours en Birmanie et qu'aucun pays de la région ne veut aujourd'hui accueillir. Ils fuient non seulement les persécutions, mais aussi la misère et le trafic d'êtres humains. Retour sur terre, autre reportage, tout aussi glaçant, celui d'Adéa Guillot dans Le Monde. En Macédoine, les réfugiés victimes du crime organisé. La reporter du Monde a suivi le parcours de réfugiés qui tentent de traverser la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Ils sont victimes, donc victimes des passeurs. Ils sont attaqués, ils sont dépouillés par des bandes, ils sont séquestrés, ils sont rançonnés à la merci de groupes criminels qui se disputent le contrôle du trafic de réfugiés. Et la situation ne cesse aujourd'hui de s'aggraver car désormais la mafia albanophone installée en Macédoine se bat pour s'emparer du territoire. Elle est considérée, cette mafia, comme la plus dure et violente du monde.
Quoi d'autre dans la presse ce matin, Frédéric ?
De la politique, bien sûr, Patricia.
Évidemment.
Les journaux reviennent sur la discussion que Nicolas Sarkozy a menée hier sur Twitter avec des internautes. Sarkozy tweet de tout et de rien, titre Libération, expliquant qu'il n'a pas répondu aux questions les plus gênantes, mais des questions, il y en a eu beaucoup, des très drôles parfois, des très moqueuses également, auxquelles il n'a pas répondu non plus. Qu'importe, d'après ses conseillers, Nicolas Sarkozy a fait le buzz. Et c'était l'essentiel. On parle de l'UMP, également dans le Figaro pour Jean-Pierre Raffarin. La primaire n'est pas encore pliée. C'est un avertissement. Tous les candidats sont donc sommés de mener campagne. D'ailleurs, doit-on dire l'UMP ? Doit-on dire les Républicains ? On ne sait plus trop. Ce sera sans doute les Républicains. Mais la Dépêche du Midi nous explique ce matin qu'une nouvelle plainte s'est associée à ceux qui refusent que l'UMP devienne les Républicains. Une plainte d'un couple qui s'appelle Monsieur et Madame Républicain, et ils s'opposent à ce que leur nom de famille devienne un nom de parti politique. On parle de la gauche également dans Le Monde avec une enquête sur ceux qui voteront sur les motions du Parti Socialiste lors du prochain congrès. Eh ben, les militants, les adhérents sont de moins en moins nombreux. Certains ne répondent plus aux courriers, certains ne viennent plus aux réunions. Témoignage d'un ancien militant aujourd'hui. Les militants, c'est juste la famille et les proches des élus du Parti Socialiste. Enfin, sur le site Atlantico, quel est l'article le plus lu de ces 24 dernières heures, Patricia ? Réponse, l'article consacré à la petite culotte de Sophie Marceau.
Oui, mais c'est à cause du vent.
Il y a 10 ans, l'actrice, on s'en souvient, avait déjà fait sensation sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Une bretelle de sa robe s'était détachée. Oups, on avait alors pu admirer l'un de ses seins. En l'occurrence, ce sont seins gauche. Nouvelle sensation ce jeudi au moment de la montée des marches. Cette fois, c'est sa robe portefeuille en satin de soie blanche qui s'est largement ouverte. Et oups, on a vu sa culotte, une culotte couleur chair.
Il choquait Pierre Veil. Coup là, de vent. Il regarde, hein, il fait des yeux ronds.
Ou coup monté, s'interroge le site Atlantico qui n'apporte pas la réponse. La photo, on la trouve sur tous les sites internet, mais également dans les journaux. Le Parisien également, cette photo vaut le coup d'œil pour ceux qui seraient intéressés.
Ah ben on imagine. Hein.
Sophie Marceau, dont on retrouve d'ailleurs une longue interview dans les pages de Society qu'on évoquait au début de cette revue de presse. Elle raconte notamment pourquoi elle a accepté d'être membre du jury du Festival de Cannes, pour le plaisir de voir des films. Elle parle aussi des acteurs avec lesquels elle a tourné. Gérard Depardieu, c'est un prédateur, il faut qu'il bouffe tout et tout le monde. Tom Cruise, si vous le mettez sur un bateau et que vous tirez un feu d'artifice, il montera sur le mât pour qu'on le regarde lui et pas le feu d'artifice. C'est ce qui s'appelle avoir le sens de la formule. Un franc-parler qui lui a cependant joué des tours. Elle se souvient de Mitterrand à qui elle avait dit qu'elle aimait pas la pyramide du Louvre. Il lui avait dit, on s'en fiche, vous n'êtes pas là pour penser. Enfin, dernière question piochée dans l'interview. Savez-vous que Jean-François Copé se vante d'avoir failli être choisi pour jouer avec vous dans la Boom ? Ah bon ? Répond-elle, je ne savais pas, mais peut-être que si Copé avait fini au cinéma, ça aurait rendu service à la politique, comme le chantait si bien Souchon. Que ferait-on sans Sophie Marceau ?
Sans les mon amour chéri, adorable, laissé sur les messageries de portables, sans les ballons de nos berceaux qui s'envolaient, sans les seins de Sophie Marceau.
Ben voilà, sans les seins de Sophie Marceau. Qu'est-ce qu'on fait ? C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.